Bonjour à toutes et à tous. Fidèles que vous êtes, vous avez écouté bien sûr notre dernière émission. Alors, vous savez que notre région a été désignée pour organiser en octobre, à Tournu, une réunion des associations faisant partie des itinéraires culturels du Conseil de l'Europe. Si cette rencontre s'est déroulée ici, c'est avant tout parce que nous avons en Bourgogne-Franche-Comté un réseau particulièrement dynamique, le réseau Transromanica. Mais qu'est-ce que ce réseau Transromanica? Pour en parler, nous rencontrons aujourd'hui Anne-Laure Pepke, vice-présidente du Centre international d'études des patrimoines situé à Saint-Christophe-en-Brionnais, c'est-à-dire dans le sud de la Saône-et-Loire. Elle est également coordonnatrice du réseau Transromanica pour la France et c'est bien la raison pour laquelle nous adressons à elle aujourd'hui. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Gérard.
J'aimerais que vous puissiez nous dire ce qu'est ce réseau. Mais, si j'ai bien compris, il repose sur notre riche patrimoine d'édifices romans. J'aimerais donc que vous puissiez également nous parler de nos églises romanes.
Commençons par le plus simple et le plus large, le réseau Transromanica. C'est une association européenne. Elle regroupe actuellement 15 routes et sites individuels ayant tous en commun leur appartenance à l'art roman. Il faut vous dire qu'il s'agit du premier style architectural commun à toute l'Europe au Moyen Âge. Ce réseau s'étend sur 10 pays, du Portugal à la Serbie, en passant par l'Espagne, la France, l'Italie, l'Autriche, la Slovaquie, la Croatie et la Roumanie, sans oublier l'Allemagne. L'association y a son siège social à Magdebourg, capitale du Land de Saxe-Anhalt, qui possède un patrimoine roman d'une très grande richesse, dont plusieurs sites du patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette association européenne a été fondée en 2007, déjà avec la participation du CEP, ce Centre d'études des patrimoines dont vous avez parlé, qui travaillait alors depuis une quinzaine d'années sur le thème du patrimoine roman, principalement en Charolais-Brionnais. Il faut que vous sachiez que le CEP y avait notamment créé le programme des chemins du roman qui visait à mettre en réseau les églises et chapelles romanes, à commencer par la centaine d'édifices recensés en Charolais-Brionnais, ce qui nous ramène sur le territoire bourguignon.
Je comprends bien, mais dans tout cela, comment peut-on caractériser nos églises romanes? Est-ce des églises pas très grandes, plutôt rurales, avec des toutes petites fenêtres, sans vraiment de décoration intérieure? Pourquoi ne pas dire peut-être des églises un peu austères, par opposition à ces grandes églises que l'on a plus tendance à trouver en monde urbain?
L'art roman a beau avoir été le premier style architectural vraiment commun à toute l'Europe, la diversité des édifices est telle qu'on ne peut répondre par des critères techniques. Je dirais donc plutôt par le recoupement de trois types de critères. Premièrement, leur densité. Deuxièmement, leur grande variété de formes et la richesse de leurs décors. Et troisièmement, leur lien, bien souvent indirect, avec le phénomène monastique.
Leur décor, j'avais plutôt le sentiment que c'était les constructions qui ont suivi, c'est-à-dire l'art gothique, qui était riche, et que l'art roman était plutôt succinct, non? C'est pas ça?
C'est plus complexe que ça. En fait, il y a eu plusieurs phases dans l'art roman, avec des édifices plus simples au début, il a fallu acquérir les techniques, avec un développement du décor ensuite. Encore que, pour les débuts, ce qui est en immense partie perdu, ce sont les enduits et donc les peintures murales qui existaient. Donc les églises étaient sûrement beaucoup plus décorées que l'impression qu'elles nous donnent de nos jours. Et puis il y a eu, vers la fin, un retour à plus de simplicité avec l'influence de l'ordre cistercien, mais ça c'est une autre histoire.
Quelquefois sur les églises, et notamment romanes, on a l'impression qu'il y a eu de la peinture, qu'il y a eu de la couleur, c'est vrai ça? Je ne parle pas uniquement de l'intérieur, on peut aussi parler de l'extérieur, par exemple à Conques, le tympan du porche d'entrée est tout à fait remarquable et on y voit encore de la polychromie.
Il y en a de très beaux restes dans plusieurs édifices, mais il y en avait à peu près partout. On n'imaginait pas du tout les églises aussi dépouillées que nous les voyons de nos jours, surtout depuis la Salmanie des années 60-70 qui consistait à vénérer la pierre apparente. Pour les gens du Moyen-Âge, c'était une aberration. Les pierres étaient faites pour supporter un enduit, et l'enduit était fait pour être peint, pour raconter des histoires bibliques, des histoires de saints, pour glorifier Dieu, pour magnifier les édifices. C'était des catéchismes peints sur les murs, puisque l'immense majorité des gens ne savaient pas lire.
Ces églises n'étaient pas simplement des édifices bien construits, il y avait une composante religieuse qui s'exprimait.
Évidemment, en tout cas pour leurs constructeurs et concepteurs, pour ceux qui les géraient, ce qui m'amène à mon troisième critère, le lien avec le phénomène monastique. La Bourgogne du Sud a été profondément marquée du sceau de Cluny. L'abbaye de Cluny, fondée en 909, probablement plutôt que 910, qui allait se trouver à la tête du premier réseau monastique européen s'étendant déjà sur une bonne partie de notre continent, et surtout qui voyait parmi ses raisons d'être celle d'assurer le salut éternel de tout le monde. Et pour cela, le meilleur moyen était de mettre la main sur les paroisses. Et donc, il y avait nombre de tout petits prieurés avec juste quelques moines qui assuraient en même temps la pastorale paroissiale.
Mais vous parlez de Cluny. Pas très loin de Cluny, il y avait Saint-Philibert de Tournu. Il n'y a pas de rivalité entre les deux? Ce sont quand même vraiment deux styles de romans différents, me semble-t-il, tout du moins quand on voit Cluny, dite Cluny 3.
Eh bien oui, justement, Cluny 3. Car il faut regarder l'ancienne abbatiale Saint-Philibert de Tournu pour avoir une idée de ce à quoi pouvait ressembler l'église abbatiale précédente de Cluny, dite Cluny 2, avec les piles maçonnées, avec de grands pans de murs. On ignore quelle pouvait être la taille des ouvertures en hauteur de Cluny 2. En tout cas, Cluny 3, ou la Maior Ecclesia, comme on dit plutôt maintenant, appartient à une autre période au sein de l'âge roman que Saint-Philibert de Tournu, qui a cet énorme avantage, outre sa beauté et l'intérêt intrinsèque du site de Tournu, de témoigner aussi de l'architecture telle qu'elle existait auparavant sur d'autres sites importants où les églises ont été reconstruites ou démolies, ou les deux, plus tard.
Il faut donc comprendre que l'art roman, et nous ne parlons ici que des églises, est multiforme et mérite qu'on le découvre davantage pour en connaître tous les apports à notre présente civilisation. Nous sommes aujourd'hui avec Anne-Laure Pepke, vice-présidente du CEP d'un côté et également coordonnatrice du réseau Transromanica. Et notre sujet, c'est les églises romanes, notamment celles de notre région, même si elles pullulent bien évidemment en d'autres endroits. Anne-Laure, est-ce qu'il y a une influence particulière des ducs de Bourgogne, même si cette période est peut-être un peu antérieure? Enfin, je ne sais pas comment ça se passe.
Pas vraiment. Alors, d'abord, quand on entend de nos jours ducs de Bourgogne, on pense aux quatre derniers, les ducs Valois. C'est une toute autre histoire. À l'époque qui nous intéresse, le duché des ducs capétiens était en cours de construction. Il a fallu qu'ils assèchent leur pouvoir sur leur territoire. Donc c'est un autre sujet, mais j'ai parlé des réseaux monastiques, eux avaient une réelle influence, mais ils n'étaient pas les seuls, car avant qu'ils ne naissent, il y avait les évêques, c'était quand même eux les chefs locaux de l'Église, avant que celle-ci ne s'implante un peu partout et structure très lentement au fil des siècles le territoire en paroisse. Justement, ce réseau paroissial, il a vu son achèvement au XIe, XIIe siècle. À partir de là, on trouve, à quelques exceptions près, mais qui sont vraiment très minoritaires, comme centres paroissiaux, les communes qui ont continué d'exister à partir de la Révolution française. Dans notre région, ce n'est pas vrai partout en France, notamment dans le Midi, les communes civiles nées de la Révolution ont pratiquement intégralement repris le réseau paroissial tel qu'il existait en 1789. Et ce sont ces églises paroissiales-là qui sont intéressantes dans la profusion des édifices romans dans le sud de la Bourgogne, puisque d'une part, elles sont le témoignage de la vie locale, non seulement religieuse, à l'époque de leur construction, mais aussi d'autres, souvent parmi les plus belles, comme par hasard, sont en fait aussi d'anciennes églises monastiques. J'ai évoqué les prieurés clunisiens, il y en avait d'autres. Je pense à Anzy-le-Duc, par exemple, qui était une dépendance de la grande abbaye Saint-Martin d'Autun. Donc, à la Révolution, les églises ont été fermées. Au bout de quelques décennies, souvent, elles étaient en mauvais état, même si le culte avait repris. La population rurale était fortement en augmentation. Et souvent, on a à ce moment-là troqué les églises paroissiales anciennes contre les anciennes églises monastiques où il n'y avait plus de communauté. Donc, elles étaient toutes trouvées pour servir de nouveaux centres paroissiaux.
Cet art roman semble être plus qu'une expression architecturale, mais rejoint toute une démarche plus large, spirituelle, et peut-être aussi culturelle en même temps que cultuelle. Est-ce que les contemporains avaient le sentiment de développer une forme de culture nouvelle ou qui serait attachée à tout ce monde de l'Occident ?
Alors, pas dans le sens actuel du terme, c'est clair. Il y avait une société où la féodalité jouait un grand rôle, où les royaumes s'affirmaient, les grandes principautés essayaient de leur emboîter le pas, et où on essayait de résoudre les problèmes au jour le jour. L'un des grands problèmes techniques de l'époque pour les églises, c'était le voûtement. Au début, elles avaient de simples charpentes, surtout les plus petites, et qui les ont gardées longtemps. Et petit à petit, on les a voûtées pour des raisons d'abord de solidité et de protection du feu. N'oublions pas qu'à Vézelay, il y a eu un incendie en 1120 qui a été une catastrophe faisant plus de 1000 morts. Pour l'époque, sur les esprits, ça faisait un peu l'impression des Twin Towers, sauf que ce n'était pas à la suite d'un attentat. Et il y avait aussi la question de l'acoustique. Les voûtes transmettaient mieux le son, non seulement des chants, mais aussi des prêches. Hein, car la sonorisation des églises avec haut-parleurs, c'est très récent. Pour entendre le sermon du curé, il fallait sérieusement tendre l'oreille. Mais il y avait un côté programmatique dans ce sens que les églises, sous influence clunisienne notamment, essayaient d'exprimer un certain nombre d'idées, de gloire de Dieu et de présence de cet ordre par certains éléments du décor. Mais ça serait un sujet à part qui a beaucoup intéressé un historien de l'art de l'Université de Clermont-Ferrand, par exemple, Bruno Falippe. Et puis, comme je disais, il n'y avait pas que les moines, il y avait aussi les évêques qui trouvaient au bout d'un moment que Cluny, notamment, devenait sérieusement encombrante, car à force de mettre la main sur les paroisses pour le salut éternel des paroissiens, l'abbaye mettait aussi la main sur les revenus qui allaient avec et qui commençaient à manquer dans les coffres des cathédrales. Et du coup, les évêques d'Autun notamment se sont mis à soutenir fortement d'autres fondations, Anzy-le-Duc, comme je disais, relevant d'une abbaye autunoise, mais aussi de petits prieurés de chanoines réguliers comme à Saint-Sernin-du-Bois et Saint-Germain-en-Brionnais ou comme la congrégation de Saint-Rigaud née dans le sud du Brionnais.
Saint-Rigaud, où est Saint-Rigaud ?
À Ligny-en-Brionnais, il en reste un bâtiment du XVIIIe siècle et quelques tout petits pans de murs plus anciens. En fait, les XIe et XIIe siècles étaient une période d'un immense foisonnement intellectuel et spirituel. Là encore, ce serait un autre sujet impossible à approfondir dans le peu de temps dont nous disposons, mais ça a donné lieu à la naissance de nombreuses congrégations, dont beaucoup, faute de durabilité après la génération de leur père fondateur, se sont rattachés en bloc à l'ordre cistercien et ont ainsi très largement contribué à son extension à travers tout le continent européen.
Vous nous brossez un tableau tellement gigantesque que j'ai peur qu'il nous faille énormément d'émissions pour pouvoir arriver au bout de la question. Néanmoins, nous allons essayer quand même de refocaliser, comprendre ces architectures, connaître l'histoire de leur construction et du lieu, avoir des possibilités de mieux apprécier les vitraux, les statues, les dispositions intérieures, les peintures murales, s'il en existe encore, parce que j'ai bien compris qu'il y en avait beaucoup auparavant et beaucoup moins maintenant à l'arrivée. Tout cela me paraît quand même bien difficile pour le visiteur moyen, même s'il a déjà quelques connaissances en matière d'art ou d'architecture. Est-ce qu'il ne faudrait pas l'aider? Et dans ce domaine-là, n'y aurait-il pas une solution pour lui permettre de mieux découvrir toutes ces églises et de les comprendre?
Mais Gérard, bienvenue à vous et à tous nos auditeurs sur les chemins du roman, membres français du réseau européen Transromanica. C'est justement leur raison d'être, c'est-à-dire le fait de recenser les églises. Nous en avons identifié un certain nombre comme romanes, ce qu'on ignorait, les équiper de panneaux explicatifs à l'extérieur, voire à l'intérieur, de documents de visite et de sites internet pour ceux qui veulent vraiment tout savoir. Pour paraphraser un titre célèbre de film, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'art roman sans jamais oser le demander.
Alors, comment me documenter sur ces églises, clairement ?
Il existe deux bases de données sur internet, librement accessibles, soit en se rendant sur place, toutes les églises concernées, et elles sont quand même presque 180 maintenant, sont équipées de QR codes qui permettent de se connecter directement. Et sinon, il y a un moyen d'accès très simple, c'est d'aller sur le site du CEP, www.cep.charolais, avec un seul L s'il vous plaît, -6 Brionnais, avec deux N.net. Et à la page d'accueil, vous avez un bouton d'accès à la rubrique Transromanica qui ensuite donne accès aux deux bases de données, celle propre au Mâconnais Sud-Bourgogne, incluse dans le Wikipédia de ces quatre intercommunalités, et l'autre qui a pour vocation de couvrir petit à petit le reste du département à partir du Brionnais qui est déjà ainsi servi.
Merci Anne-Laure, je commence à comprendre pourquoi dans une bibliothèque normale de gens qui s'intéressent aux romans, il peut y avoir plusieurs mètres d'informations et de livres, parce qu'en fait j'ai bien compris, que je pense que nous avons tous bien compris, que c'est un sujet éminemment intéressant et multipolaire. Merci Anne-Laure. Nous avons largement de quoi remplir nos beaux week-ends en allant visiter toutes ces églises et en sachant que nous aurons sur place les moyens de mieux les connaître et de mieux les comprendre. Avant de rendre l'antenne, je rappelle que tous ceux qui nous écoutent et bien d'autres pourront retrouver une vidéo qui explicitera cette émission sur le site de Patrimoine Environnement, patenvbfc.org. Elle s'intitulera L'épopée du roman. C'est le mag se termine. Nous laissons maintenant l'antenne pour vous permettre de prendre connaissance des dernières nouvelles. À très bientôt.